Bonjour Francis.
Salut Jean-François.
Voilà, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes sur RTF 95.4 MHz, vous écoutez le mandarin merveilleux, les réducteurs de texte, jusqu'à 21h. Et une émission consacrée au jazz, à la musique classique et à la littérature.
À la littérature, et je vois deux livres à la couverture blanche sur la table du studio.
Il y a quand même beaucoup de livres qui ont une couverture blanche. Bon, alors, Jacques Roubaud, Parc sauvage, et c'est un récit, nous dit-il, pas un roman. Et puis un roman, alors là, qui est intitulé roman, Jean-Marie Rouard, Une jeunesse perdue.
N'empêche que les couvertures sont blanches.
Oui. D'ailleurs, chez Gallimard, ça s'appelle la collection blanche.
Oui, pour le roman de Jean-Marie Rouard.
Voilà, Jean-Marie Rouard de l'Académie française.
De l'Académie française. Bien, et puis alors, de la musique classique.
Alors,
vous avez trouvé plein de choses cette semaine.
C'est un peu des vieilleries, mais vous savez, comme on dit...
C'est dans
oldies but goldies.
C'est dans les meilleurs. C'est dans les vieux pots
qu'on fait les meilleures soupes. Oui. Alors c'est pas tout à fait ça, mais enfin bref. Donc j'ai porté. Qu'est-ce que j'ai porté? Ah oui, une chose que vous connaissez peut-être, enfin en tout cas que les pianistes débutants connaissent, un enregistrement des sonates, enfin un des volumes, parce que de Muzio Clementi que les pianistes débutants jouent souvent pour s'exercer, mais il en a écrit des quantités absolument industrielles, et c'est quand même de la belle musique, très bien faite, un métier solide, et c'est toujours plaisant à écouter, voilà. Et puis qu'est-ce que j'ai porté? J'ai porté du Bach.
Oui.
Alors vous savez, Bach, c'est cette collection historique où on a enregistré, la totalité des cantates de Bach, et je peux vous dire qu'il y en a un paquet. Voilà.
Mais ce n'est pas par cela que nous commencerons.
Alors non, François, on ne va pas commencer par ça.
Car vous avez de beaux enregistrements.
Oui, mais j'ai porté. Alors là aussi, c'est pas tout jeune, mais c'est très beau quand même. C'est des préludes de Chopin. Nous allons en écouter quelques-uns. Interprétés par Maurizio Pollini.
Mais quand on écoute plusieurs préludes... Le premier, c'est un prélude, il n'y a aucun doute. Bon, le deuxième, à la limite aussi, mais à partir du troisième, est-ce qu'on peut toujours les qualifier de prélude?
Oui, car ça reste un genre musical.
Ah bon, je suis rassuré. Bon,
alors, voici ce que dit... Je me tais et je laisse parler Robert Schumann. C'est une chose que l'on ne sait pas, bien souvent, mais Schumann, grand musicien, grand compositeur, et... Schumann était également un grand critique musical. Il a beau, enfin, j'allais dire, gagné sa vie surtout avec ça, enfin presque. Voilà. Donc voici ce qu'il a écrit sur ses préludes. Ce sont des, je cite, des esquisses, des commencements d'études, des ruines, des plumes d'aigle détachées, le tout disposé sauvagement et pêle-mêle. Alors voilà, je vous propose d'écouter donc ces fragments, ces plumes d'aigle détachées, interprétées par Maurizio Pollini.
Thank you.
Bon, voilà, je trouve que pour des esquisses, des débuts, des morceaux, là, c'est pas si mal quand même. Donc, c'était Maurizio Pollini. On a écouté 4 préludes de Frédéric Chopin. Alors, un peu de jazz maintenant, on change d'ambiance.
On change d'ambiance. Vous m'avez dit de ne pas mettre de piano tout de suite après Chopin.
Voilà, pour ne pas...
Donc, je vais vous mettre du saxophone.
Voilà, c'est parfait.
Alors, je vous propose d'écouter Laurent Bardenne. Laurent Bardenne, on l'a vu à Limoges l'automne 2023. On l'avait vu auparavant aussi lors des précédents festivals avec les Démailles, parce qu'il il est venu en tant qu'accompagnateur, on dit sideman en jazz avec l'Atomic Jazz Band de Pourquerie, mais là il est venu avec son propre ensemble, et donc je vous propose d'écouter le titre qui a donné son nom à son album le plus récent, qui s'appelle Hymne au Soleil. Laurent Barden.
Eh ben ça y va. Hein.
Ça y va. C'était pas tout à fait le même rythme que les préludes de Chopin.
Écoutez, il faut de tout.
Et maintenant.
Il faut un moment pour ça. Alors maintenant, carrément, nous allons. Mais nous allons nous réjouir un peu aussi. Alors je. Dans les années 75-80, il y a eu en Europe, un peu partout dans le monde, une sorte de révolution musicale dans la musique classique où, sous la direction de Nicolas Haussard-Noncourt, mais pas que, il y en a eu d'autres, Gustave Léonard, etc., et qui ont lancé une espèce de retour aux sources de la musique baroque. C'est-à-dire qu'ils jouaient avec des instruments d'époque, ou en tout cas des copies d'instruments d'époque. On a travaillé avec de petits effectifs. Et donc ça a été toute une révolution qui se poursuit encore. Il y a eu des quantités d'ensembles, dont l'ensemble baroque de Limoges, qui a été fondé à peu près dans ces années-là. Alors il y a, je ne sais pas combien il y a de disques alors de Das Kantatenwerk, complète cantatas. Oui, alors je ne sais pas, il y a peut-être 25 ou 30 coffrets. Donc je vous propose d'écouter un chœur tiré de la cantate 80. Alors vous savez, Bach devait écrire une cantate tous les dimanches que Dieu faisait. Plus d'autres œuvres, enfin, c'était un travail absolument de titan. Et quand on voit le génie qu'il a manifesté, l'inventivité, la science harmonique, on est vraiment stupéfait. Et Bach, qui avait déclaré « N'importe qui aurait mis autant de soins que j'y ai mis aurait fait pareil ». Non, c'est pas vrai. Je crois pas du tout. Pas du tout. Voilà. Alors, c'était ces enregistrements donc historiques, donc dirigés par le Concentus Musicus de Vienne, par Nicolas Haussard-Noncourt, avec Paul Eastwood, haute contre, j'ai quelque part le nom du soprano qui était un des petits chanteurs de Vienne, et puis alors des gens qui jouent des instruments, alors par exemple du hautbois, de ce qu'on appelle du hautbois de chasse, hein, du hautbois d'acacia et du hautbois d'amour, etc. Voilà, donc un côté historique. C'est la cantate dite de la Réformation, c'est-à-dire les protestants chantent cette cantate l'anniversaire de je crois que c'est la publication des textes des propositions de Luther. Voilà, donc la cantate de la Réformation, la cantate 80, Ein Festburg ist unser, un château de fête est le nôtre aujourd'hui.
Oh,
Voilà, je vous ai dit une sottise tout à l'heure, ça m'arrive assez souvent, mais là, celle-là était particulièrement belle, très mal traduit. Eine Festburg ist unser Gott, notre Dieu est un château fortifié, voilà. Mais c'était bien Nikolaus Harnoncourt, avec Wilhelm Wiedel, qui était un des petits chanteurs de Vienne, maintenant c'est un monsieur, mais qui avait cette voix magnifique, et Paul Eastwood, grand musicien anglais, donc un des premiers haute contre.
Et maintenant, il est l'heure de présenter le premier livre.
Le premier livre. Alors, je lis beaucoup, mais je ne peux pas lire que des chefs-d'œuvre. Et celui-là, c'est un livre qui n'est pas désagréable à lire, mais on se dit que quand même il y a un certain nombre de faiblesses. Alors, de quoi s'agit-il ? Une jeunesse perdue, c'est un peu les regrets, les presque gémissements du héros qui est... il possède une revue d'art qui lui rapporte pas mal d'argent et qui lui rapporte surtout le fait qu'il est invité partout dans le monde pour prononcer des conférences sur l'histoire de l'art. C'est un peu la famille de Jean-Marie Rouart, et son grand-père est un peintre célèbre, enfin bref. Et donc un jour, il reçoit un article, et puis cet article l'agace, il le trouve mauvais, il le renvoie balader. Bon, là-dessus, deuxième épisode, il va prononcer une conférence aux États-Unis, à New York. Et en revenant, il est dans l'avion à côté d'une jeune femme qui est d'origine russe. Et il veut engager la conversation et lui fait la gueule, se tourne, etc., etc. Quelques jours après encore, elle vient porter un autre article à sa revue, mais il découvre avec stupéfaction que c'est elle. Alors, le genre de scène où les deux héros, le héros rencontre l'héroïne, où ils se font la gueule, où ils ne se plaisent pas, on se dit bien, ils vont se mettre ensemble. Mmh. C'est pas très original. Et c'est ce qui arrive là, bien sûr. Alors, il a, le héros a une épouse qui est une énarque et qui est sous-préfète en province où elle règne. Alors, il se voit les week-ends et les choses ne marchent pas si mal. Mais, évidemment, le héros succombe au charme de cette jeune femme d'origine russe, Valentina. Et, ils finissent par se mettre ensemble. Et là, tout s'en va de travers. Il apprend en démontant un meuble que sa femme le trompait avec un de ses amis. Et puis peu après, il apprend que Valentina aussi.
Mais comment peut-on apprendre ça en démontant un meuble?
Alors, ça c'est le chose originale.
Il a une.
Bon, non, mais c'est très facile. Il a une commode chez lui à Paris. Et derrière un tiroir, il y a une espèce de tiroir secret. Et alors, il fait venir un ébéniste parce qu'il y a un éclat de plaquage qui a sauté. Enfin, bref. Et il y a un paquet de lettres que sa femme avait planqué derrière.
D'accord.
Alors, c'était pas encore l'époque des textos. Donc, voilà. Il trouve des lettres. En plus, donc, il apprend que l'appartement qu'il occupe et qui lui est sous-loué par je ne sais quel intermédiaire, eh bien, il va être obligé de le quitter. Il habite rue des Beaux-Arts, vous voyez où c'est, à Paris, c'est dans le 5e, assez sympathique comme endroit. Bon, et à partir de ce moment-là, tout va aller de travers. Obligé de vendre un tableau de Francis Bacon qu'il possède et qu'on lui a donné. Sa femme l'informe qu'elle veut divorcer et vraiment tout va de travers et on se dit mais bon, quelqu'un qui perd tout, y compris sa dignité à ses propres yeux, son estime de soi, à cause d'une femme dont on apprend que c'est une sorte de pute de luxe, là aussi c'est pas très original. Et alors, je trouve que Jean-Marie Roard a eu recours à deux facilités. La première, c'est que on se demande, alors sa femme qui lui en fait des misères et qui veut le plumer, bah, sa femme a une maladie très, très rare, mais très grave aussi. Bon, ce qui est un peu fastoche comme façon de faire. Et puis, bon, de fil en aiguille, on voit que soudain, Valentina disparaît, non sans l'avoir grugé d'une manière terrible, et il termine en disant « Puis plus rien, j'avais vécu. » Voilà. Bon, plus rien, j'avais vécu. Bon, c'est un peu bâclé quand même. Ça se lit sans désagrément.
Oui, on reste un petit peu sur sa fin.
Ben, on aurait aimé que, à partir de cette histoire, il trouve un peu mieux, comme, je sais pas, un peu d'espionnage, enfin bref. Mm-hmm. Bon, voilà, je l'ai lu jusqu'à la fin, car, je vous l'avoue, il y a pas mal de livres que je lis jusqu'à la page 50 et que je laisse tomber parce qu'ils ne m'intéressent pas suffisamment. Voilà, on peut lire ça quand même. Il y a des gens qui aiment bien Jean-Marie Roard, qui écrit très bien, qui est un académicien. Ça s'appelle Une jeunesse perdue et c'est dans la collection Blanche chez Gallimard.
Allez, un peu de jazz. Alors, ce soir, nous écouterons les deux Avishai Cohen, Jean-François.
D'accord.
Alors, vous savez
pourquoi les deux ?
Mais parce que c'est tout à fait incroyable, mais il y a deux stars du jazz qui portent exactement le même prénom et le même nom.
Mais c'est pas la même.
Mais ils ne jouent pas le même instrument.
Est-ce qu'ils jouent ensemble ?
Non, je ne crois pas qu'ils aient jamais joué ensemble. Alors, on va commencer par le Avishai Cohen, dont vous avez forcément un peu entendu parler, parce que c'est avec lui que Shai Maestro, qui est bien connu du public de Limoges, a fait ses débuts. Il était le pianiste de Avishai Cohen, le contrebassiste. Voilà. Contrebassiste et compositeur qui a composé énormément de titres, y compris pour des musiques de films, etc. Alors là, actuellement, il a plusieurs projets en même temps, comme toujours, mais je vous parle de son avant-dernier disque qui s'appelle Sable Mouvant, ça doit se faire quelque chose comme Shifting Sands en anglais. Cet Avishai Cohen, contrebassiste,
oui,
partage sa vie entre Israël et New York. C'est à se demander si New York n'est pas, outre la capitale du jazz, aussi la deuxième capitale d'Israël.
Je crois qu'il y a autant de, je crois qu'il y a autant de juifs à New York que dans tout l'Israël. Mais enfin bref.
C'est fort possible. Oui. Alors là, il est en trio avec Elchin Shirinov, qui est un pianiste d'Azerbaïdjan, originaire d'Azerbaïdjan, très talentueux, qui a sa propre carrière de son côté aussi. Et une découverte, à la batterie, il y a une jeune Israélienne qui s'appelle Roni Kaspi. Alors elle a 20 ans, et puis elle a du culot et elle a du talent. Alors pendant la période du Covid, elle avait pris contact avec Avishai Cohen et elle lui avait dit « Voilà, j'ai réinterprété à la batterie certaines de vos compositions ».
Bon, carrément.
Carrément, elle lui envoie ça, il écoute ça avec curiosité, et il se rend compte qu'elle est surdouée, qu'elle est excellente. Donc il l'engage sans l'avoir jamais vue, puisque c'était une période pendant le confinement où les musiciens échangeaient des fichiers avec des enregistrements sur Internet. Et donc voilà le début de l'histoire, et donc elle a joué en trio avec lui, elle continue, et elle a... Maintenant, elle a 22 ans, 23 ans, elle a sa propre formation et elle fait sa carrière. C'est une personnalité extraordinaire, cette Roni Kaspi. Donc, je vous propose d'écouter extrait donc de ce sable mouvant de Avishai Cohen, une composition qui s'appelle Kinderblock. Alors, les Kinderblock, pendant la Shoah, c'était les blocs où étaient enfermés les enfants. Voilà, donc ça leur a inspiré une composition qui n'est pas spécialement triste, qui est un peu nostalgique, je dirais plutôt. Voilà, Kinderblock par Avishai Cohen, trio.
Thank you.
Alors, il est carrément temps de parler du deuxième bouquin de cette soirée, Jean-François.
Je me suis toujours... Pardon, mais oui. je pense à Avishai Cohen. Je me suis toujours dit qu'il devait avoir les doigts dans un état...
Non, pas forcément.
Non ?
Non, non.
Parce que alors vraiment, jouer comme ça... Oui. Oh là là. Bon, enfin... Peut-être qu'ils mettent de la, peut-être qu'ils ont de la corne qui leur vient.
Oui, comme, oui, oui. Ça comme, doit pour, être comme ça. Pour les guitaristes.
Mais même chose, d'ailleurs, même chose pour les harpistes, hein, finalement. Il faudrait que je demande à la professeure de harpe du conservatoire. Bon, alors, donc, deuxième livre, Jacques Roubaud, Parc Sauvage. Alors, Jacques Roubaud, c'est un oulipien. C'est dire que ses œuvres sont toujours codées. Il y a toujours des codes, il y a toujours des contraintes, des sortes d'organisations souterraines. Et alors, non seulement c'est un oulipien, mais en plus c'est un matheux. Il a enseigné, j'imagine qu'il est à la retraite, mais il a enseigné pendant longtemps les maths. Il a enseigné les maths à des littéraires en fac. Alors, ça doit être un... Il y en a qui, je ne sais pas, peut-être en psycho, peut-être en socio, peut-être... ou même en philo. Donc voilà, donc il enseignait les maths et à un niveau suffisamment élevé, donc, puisqu'il enseignait les maths en fac. Alors là, Parc Sauvage. Alors, c'est aussi, j'allais dire, peut-être surtout un poète. Donc, grand poète, Jacques Roubaud, en particulier « Quelque chose noir », paru en 2001, mais avec des titres surprenants comme celui-ci, Ma vie avec le docteur Lacan. Voilà. Bon, et puis d'autres... il a une bibliographie quand même assez impressionnante. Le Parc Sauvage. Parc Sauvage, plutôt. Ça s'appelle Récit. On est en 1942, première partie, très importante, qui raconte la vie d'un certain nombre de personnages, deux enfants qui sont deux jumeaux, une petite fille qui s'appelle Dora, un personnage qui est sans doute qui s'appelle Goodman mais qui se fait appeler Bonhomme, un monsieur plus âgé qui est le grand-père de toute cette tribu et qu'on appelle Camillou. Et tout ça, ils se promènent, ils explorent la campagne, ils explorent le parc sauvage. Les enfants découvrent une sorte de planque avec une sorte de souterrain où ils trouvent du matériel dont on comprend qu'il s'agit d'un poste de radio. On est en 1942. Et on comprend assez vite qu'en fait, il s'agit là d'enfants qui sont cachés, d'enfants juifs qui sont cachés dans cette propriété de... Alors, on n'est pas loin de Toulouse. Et il y a une deuxième partie très brève qui est en 1992, où l'on revoit donc ce personnage, donc Goodman... Donc, qui s'appelait Bonhomme Jacques sur ses papiers, et qui est en Angleterre, qui a survécu, qui n'a pas été découvert, et qui reçoit une lettre de quelqu'un qui est la petite fille du Camillou, et qui lui, etc., qui raconte un peu l'histoire. C'est une histoire agréable à lire, touchante, encore que, et c'est souvent le cas chez Jacques Roubaud, il y a une espèce d'angoisse sourde qui... Il y a une espèce d'angoisse sourde qui se dégage. Et on ne sait pas exactement d'où, parce que nous voyons des enfants dans un beau parc de la région de Toulouse qui se promènent. Et il y a quelque chose qui va... Et on découvre pourquoi, bien sûr, à la fin. Mais il a le talent de nous instiller, en quelque sorte, ce sentiment. Et alors, à la fin de chaque chapitre, il y a des mots. L'eau fraîche, le pain, la cave, les foudres, l'eau, le pain, foudre, fraîche, la cave, l'eau. Pourquoi ? Parce que, à la fin du chapitre, le destinataire, donc Goodman, a découvert quelque chose qui est le journal de Dora, donc, et elle avait mis des chiffres en correspondance avec des mots qui, si on les rapproche, forment d'autres choses. C'est-à-dire, c'est le côté oulipien, et c'est un peu la même chose qu'il y a dans la vie mode d'emploi chez Pérec. C'est-à-dire un texte qu'on peut lire comme ça avec plaisir, et qui recèle tout un tas de choses mystérieuses et mathématiquement bizarres. Je veux dire que j'ai pas du tout essayé de faire ça, et je trouve ça légèrement casse-pied, pour être franc. Donc, ça se lit avec plaisir, ça s'appelle « Parc sauvage » de Jacques Roubaud, et c'est aux éditions du Seuil, dans la collection « Fiction et compagnie ».
Thank you.
Eh bien, c'était une sonate de Clementi. C'était un presto final de la sonate opus 25, numéro 5. Voilà, en fa dièse majeur.
Avec plein de dièses partout.
Ouais, non, pas autant que ça. Finalement, j'avais mal lu. J'avais lu la dièse mineure.
Ah, bon,
oui,
bon.
Non, c'est fa dièse mineure.
C'est alors, pas moi qui mineure, vous contredirai, Jean.
Ça fait trois dièses à la clé. Donc, pas autant que ça, finalement. Ça nous amène dans la majeure.
Alors,
petite cours de solfège rapide.
Merci beaucoup, j'ai pris des notes.
Alors, Avishai Cohen.
L'autre, le trompettiste.
L'autre.
Alors, c'est un trompettiste qu'on a vu à Limoges aussi.
Ouais.
Il y a deux, trois ans. C'est une forte personnalité du jazz israélien aussi. C'est quelqu'un dont la voix porte, en plus, il est très connu en Israël. Et il prend des positions. Alors là, en particulier, il a pris des positions très hostile à Netanyahou depuis plusieurs années. D'ailleurs, à un moment donné, il ne mettait plus trop les pieds en Israël. Et là, il y est revenu pour enregistrer ce disque qu'on va écouter. Alors, c'est assez particulier parce qu'il y a, outre sa trompette, deux guitares et deux batteries. Donc, c'est un...
Deux batteries.
Oui, c'est d'une formation, donc vous vous en doutez, avec des morceaux très rythmés. Et pourtant, je vous propose d'en écouter un qui n'est pas du tout dans le même tempo que les autres morceaux du disque, parce que c'est une reprise jazzifiée de la sonate au clair de lune. Moonlight Sonate. Vous voyez, on était dans les sonates ce soir. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce titre. Bah, une autre fois, on écoutera un morceau plus... un peu plus...
Voilà, plus péchu.
Un peu plus péchu. Allez, d'accord.
Et bien voilà, l'émission est terminée. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne. À 20h, le mandarin merveilleux, les réducteurs de texte, toujours sur RTF 95,4 MHz. Merci Francis pour la réalisation technique parfaite et le beau jazz.
Merci Jean-François pour les livres du jour, même si ce ne sont pas de grands chefs-d'œuvre.
Ce ne sont pas des chefs-d'œuvre. Voilà,
c'était ça intéressant. Arrive. Voilà, ouais, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Thank you.